le 6-9 du week-end sur France Inter.
Profession reporter à présent avec vous, Éric Valmire. On va partir ce matin au Nigeria en rappelant que l'élection présidentielle prévue hier a été repoussée à samedi prochain. Eh bien, nous, ce matin, nous partons au Nigeria sur les rives du lac Tchad, en rappelant aussi qu'on a entendu cette semaine pas mal de reportages de Claude Guibal qui était avec les réfugiés qui peuplent les rives.
Avec notamment ce focus sur les victimes de Boko Haram qui ont fui les exactions pour se réfugier sur les bords du lac Tchad. Boko Haram au Nigeria, 27 000 morts, 1 700 000 personnes déplacées et massées ici près du lac où les gens manquent de tout. La terreur existe encore, à la crise sociale de la région s'ajoute logiquement une crise humanitaire amplifiée par la crise sécuritaire. Claude Guibal.
Ce qui était très frappant, c'est la terreur en fait qu'on lit dans les yeux des gens, parce que ce sont des gens qui ont dû fuir leur domicile, tout abandonner en une nuit quand Boko Haram arrive, attaque, dévaste tout. Et les attaques, disent-ils, continuent. En fait, il y a cette peur permanente. On vous dit que à 20 km de là, un village a été attaqué, que 30 km plus loin, il y a eu de nouvelles attaques, un village complètement incendié.
Ce qui est marquant dans votre reportage, c'est que vous avez pu approcher des anciens membres de Boko Haram.
En fait, il y a 3 ans, le président tchadien Idriss Déby a offert une sorte d'amnistie aux jeunes qui étaient partis combattre avec Boko Haram, puisque quand Boko Haram attaque les villages, ils tuent les hommes, ils prennent le bétail, ils kidnappent les femmes et ils enrôlent de force très souvent les jeunes garçons. Donc pour permettre à ces enrôlés de force de revenir au pays, après avoir passé plusieurs années à combattre sous l'égide de Boko Haram, il y a eu cette offre d'amnistie disant « si vous vous rendez, vous pouvez revenir sans être inquiété. En revanche, si on vous prend sur le champ de bataille, vous serez condamné. » Donc il y a des jeunes comme ça qui sont revenus. Certains ont été intégrés dans un village, et donc j'ai eu la possibilité de m'entretenir avec eux, avec ces garçons qui sont partis très jeunes, souvent 17, 18 ans, plusieurs années, combattre avec Boko Haram, notamment au Niger.
La parole est assez libre.
La parole est compliquée parce qu'elle est extrêmement... ce sont des gens qui sont extrêmement stigmatisés, bien sûr, dans les villages où ils sont. Il y avait, notamment chez un des combattants que j'ai interrogé, un énorme sentiment de honte, puisque lui est parti rejoindre Boko Haram contre l'avis de ses parents, parce qu'on lui disait que là-bas, il aurait de l'argent, il aurait des femmes. Ses parents avaient tenté de le dissuader. Il revient 3 ans plus tard, non seulement il n'y a rien de tout ça, ni argent ni femme. Il a honte de ce qu'il a fait. Il vit au crochet de sa famille. Il ne peut rien faire. Il ne peut pas travailler. De toute façon, il n'y a pas d'emploi. Et ce qui était terrifiant, en fait, c'était de comprendre dans ses propos que parce qu'il n'y avait pas de perspective d'avenir à l'endroit où il était aujourd'hui, il n'aura probablement pas d'autre espoir que de retourner à un moment ou à un autre vers Boko Haram, parce que foutu pour foutu, c'est peut-être une situation qui peut lui sembler préférable. Après, ce qui est très très impressionnant aussi, c'est la force de résilience des populations, c'est-à-dire qu'il y a une dignité très très forte de gens qui disent qu'ils ne veulent plus dépendre de l'aide humanitaire, comme c'est le cas depuis très 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 longtemps. C'est un propos qui revient vraiment dans la bouche de tout le monde, donc on voit que quand des ONG sont actives en favorisant par exemple des groupements de pêcheurs qui vont mutualiser le produit de leur pêche, en essayant d'aider à fournir des outils pour de la production maraîchère, en proposant des formations, même des formations très très basiques, hein, formation de couturier, formation de mécanicien, si vous avez cette petite formation-là, ça vous permet en fait, s'il y a une sécheresse, d'avoir une activité rémunératrice, si vous êtes déplacé, d'avoir aussi ailleurs une activité qui soit rémunératrice. Et donc ces tout petits programmes montrent qu'il y a possibilité de faire quelque chose, mais l'ampleur de la tâche est immense. Il faudrait déjà commencer par un minimum d'électrification, un minimum de couverture réseau, comme me disaient des chefs de village. Comment voulez-vous prévenir, par exemple, qu'il y a une infiltration de Boko Haram quand il n'y a pas de réseau téléphonique, et de toute façon pour brancher votre téléphone portable, il vous faut marcher 5-10 km une fois par semaine au marché voisin parce qu'il y a un générateur pour pouvoir charger vos téléphones. Les gouvernements, pour des raisons de politique intérieure, disent qu'ils sont en maîtrise et qu'ils ont défait Boko Haram. Or, on voit que Boko Haram, en fait, très loin d'être défait, est en train de ressurgir et encore plus fort, puisque le mouvement s'est scindé entre un canal historique et un nouveau canal qui a prêté prêtait allégeance à l'État islamique et qui a concentré ses attaques ces dernières années sur les camps militaires, sur les bases militaires. Donc aujourd'hui est équipé en chars, en lance-missiles, et c'est un mouvement qui prend de l'ampleur et qui multiplie ses attaques. On l'a vu encore il y a quelques semaines, 30 000 déplacés dans la ville de Ran, 6 000 autres dans la ville de Baga, juste à la frontière entre le Nigeria et le Tchad, et on voit que la situation est très très loin d'être terminée.
Voilà donc propos de la journaliste Claude Guibal, Boko Haram et son influence au Nigeria. C'était Profession Reporter, c'est aussi sur franceinter.fr.